Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Irung Moshige. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois Dr. Yves Bunkulu-Zola. Il est médecin, ministre honoraire du tourisme, de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, et président de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le parti présidentiel. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Docteur Yves Bunkulu-Zola, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je me porte bien, et vous?
Ça va bien, merci. Bonne année, hein, pendant qu'on y est.
Merci, heureuse année à vous aussi.
Je vous en prie, merci beaucoup. Vous voyez le jour à Kinshasa, le 30 septembre 1984. Vos études primaires, c'est à l'école de la science et CBFC Kitega, les études secondaires au collège Notre-Dame du Congo, où vous obtenez un diplôme en chimie-biologie. Quel type d'enfant étiez-vous?
Un enfant un peu doux à certains moments, mais turbulent aussi.
Vous n'en donnez pas l'air, hein?
C'est la sagesse en grandissant.
Ah oui? Alors, racontez-nous un peu ça dans les détails. Doux à certains moments, turbulent, quelques anecdotes d'enfance, par exemple.
Oui, entre toute mon enfance, depuis mon école maternelle, que ce soit mon école primaire, l'école de la science, j'étais un enfant très studié. J'étais souvent premier de la classe. Mm-hmm. C'est plutôt en cinquième année de l'école primaire. C'était le début aussi, on approchait de l'adolescence.
Ouais.
Et c'est à ces moments-là qu'on a commencé à être beaucoup plus dérangeur. J'étais vraiment un grand dérangeur. En cinquième primaire, en sixième primaire, mm-hmm. même en premier secondaire, en deuxième secondaire, j'étais vraiment parmi les grands dérangeurs.
Les plus intelligents et les grands dérangeurs.
Oui, en tout cas jusque-là. En tout cas, toute mon école primaire, j'étais très brillant. Mm-hmm. J'étais souvent premier de l'école, soit deuxième. Mm-hmm. Et c'est en secondaire, et quand je suis allé au collège Notre-Dame du Congo, qui avait la vraie compétition, on a trouvé encore des élèves encore plus intelligents. Mm-hmm. Et je me rappelle, nous avions à l'époque un certain Moussouba Ombele.
Okay.
Il était souvent premier de l'école.
Wow.
Pas de la classe, de l'école. Moussouba était premier de l'école. Et il était de ma classe en première année. Et nous avions en première B, il y avait un certain Didi Matenda, que j'ai salué en passant, que ce soit Moussouba ou qui vit, je crois, à Lubumbashi maintenant. Et Didi Matenda, il est à Marseille. Mm-hmm. C'est le fils de l'ancien ministre des Finances, Athanase Matenda.
Athanase Matenda.
Qui est également brillant, qui s'est disputé souvent avec Moussouba ou mm-hmm. les premières places de l'école. Soit c'était Matenda qui était premier de l'école, soit c'était Moussouba, mais souvent c'était Moussouba. C'est en troisième année que j'ai commencé à connaître un frein, parce que je me rappelle, nous avons à l'époque notre titulaire de classe, qu'on appelait Jean-Baptiste Yumoussou, qui était notre professeur enseignant de chimie.
Okay.
Il m'avait déclaré élève libre.
Élève libre.
Élève libre.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que tu peux être en classe, tu peux te déranger. Jamais on t'écrit sur la liste des bavards.
Ah bon?
Jamais on t'épinit, jamais on te sanctionne. Donc, tu fais ce que tu veux.
Et pourquoi il en avait assez de vous?
Exactement, exactement. Et c'était en 98, je me rappelle bien. C'était pendant cette période-là que j'ai commencé à m'assagir. Quand je suis allé à l'université de Kinshasa, en première année de graduat de médecine, j'avais repris cette année en 2002. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'étais transformé, j'étais devenu très doux.
Que la conscience est revenue.
Exactement.
Alors, vous avez cité quelques noms d'amis d'enfance, d'autres noms, hein, d'amis des jeux.
Oui.
C'était quoi les jeux d'enfance pour vous? Avec quels amis, par exemple?
Oui, moi, j'ai d'abord grandi à Lingwala. Je suis né, j'ai grandi à Lingwala. Les jeux d'enfance, c'était le football. On aimait bien le football. Moi, je suis passé à l'école de football de Kinshasa,
Efokin.
Okay. Nous avons joué là-bas. Il y a beaucoup d'amis qui sont allés au stade. Il y a des aînés. On avait Luntadi Labadjo, qui a joué à l'Oseka. Il a joué à l'ASV Club.
Et souvent, à Lingwala, c'était sur le terrain Comet.
Oui, on jouait au terrain Comet, on jouait à l'Académie des Beaux-Arts, on jouait au terrain Ocal. On a également des aînés comme Sosaïs Abengeya.
Okay.
C'est des amis avec qui on a grandi ensemble, avec qui on jouait ensemble. On a eu d'autres aînés, Belge Loubaki, le grand frère de Luntadi, là, qui a joué également à Oseka. Et on jouait également au terrain HCB, Pelzette, actuel PHC.
Tout à fait.
Non loin de la paroisse Saint-Jean-Marie-Mosey. C'était des cadres de jeux pour enfants. Et puis à l'école, on a connu également d'autres amis qui ont également évolué dans le football. Je donne l'exemple de Thierry Makengo qui a joué à Metz. et Allé, qui a joué même au Léopard. Okay. Et Allé, on était de la même promotion. Mm-hmm. Donc, j'ai entendu Congo qui a joué au Léopard. Il a joué en Belgique. Nous avons également, ça c'est dans le domaine du sport et dans le domaine de la communication. J'ai des collègues des classes comme Blaise Aïnda,
okay.
l'ancien DG de Digital Congo. J'ai partagé la même troisième année avec Blaise Aïnda. Okay. Nous avons un ami également qui était dans la presse, Gaëtan Vandal, mm-hmm. qui était directeur de production des ASTV chez l'honorable Serge KMB. Il a géré à un moment donné la chaîne des radios.
Mais pourquoi vous n'êtes pas destiné à une carrière de footballeur? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Bon, en fait, c'était les parents. Hein. Les parents tenaient à ce que nous puissions demeurer dans les études. Il y avait des grands compagnons. À l'époque, je me rappelle bien, il y a Prince Côté, là, qui est actuellement à la primature, qui est un ami avec qui on a grandi, et c'est lui qui m'a donné le goût des livres.
Ok.
C'est Prince Côté, là, qui m'a donné le goût des livres parce que il travaillait à Afrique Édition à l'époque, avant la fermeture. Ensuite, il est allé travailler à Mediaspol.
Ok.
Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le goût des livres. Il y a également un ami qu'on a perdu très jeune, tonton Kialungu, qu'on appelait Weston Makengo, qui était vraiment un ami, un compagnon de tous les jours. Il y en a tant d'autres que je n'ai pas cité.
Vraiment, la liste n'est pas exhaustive.
Exactement.
Au secondaire, c'est chimie-biologie. Pourquoi le choix de la médecine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a attiré chez les médecins et tout?
En fait, moi, j'ai grandi, mon père travaillait à la Banque Centrale. J'étais beaucoup plus transformé par le médecin que j'ai trouvé à la Banque Centrale. Par leur accueil, on avait une pédiatre, paix à son âme, le docteur Mboyo. Elle était vice-présidente du MPR à l'époque. Elle nous accueillait tellement bien et il y avait également une dermatologue décédée aussi, docteur Luaka Bwanga. Et quand on était enfant, à chaque fois qu'on était à l'hôpital de la Banque Centrale à l'époque au siège, on était bien accueillis par ces personnes et je me disais, mais comment est-ce que ces personnes savent que j'ai telle maladie? Je me disais bien à l'époque, je me disais c'était une magie ou quoi.
Ça paraissait un peu mystérieux.
Exactement. Et puis, c'est comme ça que nous avons eu le goût de la médecine. Et si mon père a joué un grand rôle, c'est celui qui m'a orienté aussi. Deux fois, les orientations au niveau de l'école n'étaient pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Mais mon père m'a orienté également, sauf qu'il voulait que je fasse la maths physique. Moi, j'avais refusé pour aller faire la biochimie parce que je n'aimais pas la mathématique et la physique. Et surtout les dessins scientifiques.
Quels souvenirs vous gardez des parents aujourd'hui?
Non, des bons souvenirs, parce que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ils nous ont donné une éducation dont nous sommes fiers nous-mêmes aujourd'hui. Et ils nous ont soutenus dans la scolarité, que ce soit malgré des conditions difficiles. Ils tenaient à ce que nous allions à l'école. Et je me rappelle même une certaine année au Collège Notre-Dame, en 98, après l'entrée de l'AFDEL, on a traversé une période difficile. À l'époque, papa travaillait toujours à la Banque Centrale, mais il y avait une mesure à l'époque du musée où les agents de la Banque Centrale étaient menacés même d'être tous révoqués et c'était des moments difficiles. Papa avait du mal à payer les frais, je me rappelle bien. Il est allé hypothéquer une paire de chaussures neuves.
Oh là là.
J'ai jamais oublié ça et je dis merci à papa.
Et ça marque à vie, hein?
Ah oui, j'oublierai jamais. Et puis, il faut le dire aussi, il y avait l'abbé Madimba, qui était vraiment un prêtre qui avait un grand cœur. Et nous avons également été formés par une dame qui était, pas une dame de moindre, Madame Élisée Mounembwe, qui était...
À la CENI.
Exactement, elle était à la CENI, elle a été vice-premier ministre. J'ai travaillé avec elle au gouvernement. Elle était notre directrice des études, c'était une dame coriace. Parce que c'est à l'école, au Collège Notre-Dame du Congo, que j'ai appris l'égalité. Elle ne faisait aucune distinction entre les enfants de ministres, les enfants de généraux. Il n'y avait pas de distinction. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, nous étudions avec des enfants de généraux, les enfants de stars. Nous avons étudié avec l'enfant de Pépé Calais. Il a été renvoyé de l'école, bien qu'il était enfant de Pépé Calais. Nous avons étudié avec l'enfant du président Tshisekedi, Bobo Tshisekedi. Il a été renvoyé de l'école, bien que fils de Tshisekedi. Et il y a tant d'autres.
Alors, les études universitaires, on l'a dit, diplôme en médecine à l'université de Kinshasa, diplôme universitaire en gestion administrative, sanitaire et sociale de l'Institut des hautes études de Paris, formation en prospective, conciliation et médiation au Panthéon Sorbonne, deux masters en management des organisations sanitaires et sociales, ainsi qu'en économie des entreprises et du marché. Ça, c'est la Sorbonne Paris-Nord. Pourquoi toutes ces études complémentaires? Pourquoi vous ne faites pas carrément un doctorat, par exemple?
Pour votre information, je suis en train de faire mon doctorat à l'Université Paris-Saclay. Ces études sont importantes parce que, vous savez, moi, je fais mes études dans le domaine social. Je suis médecin de formation. Je me dis bien, nous avons un pays à construire. Et si vous regardez bien mon orientation, ce sont les études dont les filières n'existaient pas au Congo. Pas seulement au Congo, ce sont les études même dont les filières, même à travers le monde, ne sont pas encore beaucoup développées. C'est beaucoup plus en France qu'on trouve le management des organisations sanitaires et sociales. Parce que je me dis bien, la République démocratique du Congo, c'est un pays à vocation sociale. Et je me dis bien, nous avons un rôle à jouer et nous devons apprendre ce qui s'est fait ailleurs pour essayer également de transformer le système social au Congo. Je salue déjà le travail qu'a son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir donné une nouvelle vision en ce qui concerne la sécurité sociale qui est pilotée par le vice-premier ministre de la fonction public d'Yahoo et sous le management du directeur général Junior Mata à la CNSAP, la Caisse de Sécurité Sociale. J'ai eu à approcher cet établissement, j'ai eu à effectuer une mission avec le vice-premier ministre. Je me suis dit, j'ai compris que notre pays a besoin d'une grande réforme dans le secteur social. Ce qui est fait, c'est très bien, j'applaudis, mais j'ai appris encore beaucoup
de choses. Il faut encore aller plus loin.
Il faut aller plus loin parce que la sécurité sociale ne doit pas se résumer à ceux qui travaillent. Tout Congolais a droit à la sécurité sociale. Et les études que moi j'ai effectuées, ce sont des études qui me permettent également demain d'essayer de faire des propositions, d'écrire sur ces domaines. Et je suis en train de préparer un doctorat là-dessus.
Là, c'est dans le domaine de la sécurité sociale, mais en tant que médecin de manière générale, quel est votre état des lieux de la santé des Congolais aujourd'hui?
Oui, la santé de Congolais, je pense qu'il y a des statistiques. Nous avons suivi qu'on a un sérieux problème de santé mentale, bien qu'on ne s'y attelle pas trop. C'est un grand problème. Aujourd'hui, je suis très fier aussi parce que le président de la République a mis en place le programme de couverture sanitaire universelle qui est en train de s'installer petit à petit. Et je salue le travail abattu par le ministre de la Santé. Tous les ministres, que ce soit le ministre Eteni, que ce soit le ministre Mbungani, actuellement le ministre Kamba, salue même leurs prédécesseurs parce qu'il faut le dire, la République démocratique du Congo a quand même un système sanitaire le mieux organisé.
Malgré nos défaillances, malgré
on peut avoir des défaillances, des manques de moyens, mais l'organisation du système sanitaire, c'est parmi les meilleurs et je vous donne de preuves. Nous sommes parmi les rares pays qui ont contenu la pandémie à COVID-19. C'est pas un hasard. Il y a eu une action du président parce que le président a pris à bras le corps la question de COVID, mais également dû à notre organisation du système sanitaire qui a trois niveaux d'organisation. Nous avons un niveau tertiaire, nous avons un niveau secondaire, un niveau primaire. Et c'est cette organisation qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des épidémies, il y a des maladies, on arrive rapidement à s'y attaquer. On a eu beaucoup d'épidémies d'Ebola qu'on a réussi à maîtriser nous-mêmes grâce au concours du professeur congolais, notamment le professeur Muyembe, qui est mon maître aussi parce qu'il m'a donné cours. On a beaucoup de cas de choléra dû à la situation de l'insalubrité dans le pays, mais à beaucoup de choses aussi. Le problème de l'accès à l'eau. Mais chaque fois, nous faisons face à toutes ces épidémies. Mais il faut le dire, le pays est grand. Nous avons une grande population. Les moyens qui sont mis à la santé sont en train de progresser, mais c'est pas encore suffisant. Et je crois que le travail qui est effectué aujourd'hui avec la gratuité de la maternité, il y a aussi la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans. Et je pense que le président de la République a promis d'aller à la gratuité également pour les personnes de troisième âge. En tout cas, je salue toutes ces initiatives et sans oublier les efforts qui sont faits. Parce qu'on parle de la santé, on ne voit pas que les malades. Il y a également le professionnel. Il faut le dire que depuis le président Tshisekedi est au pouvoir, il y a une grande amélioration de la prise en charge des professionnels de santé. Et je vous informe qu'en 7 ans, le président Tshisekedi a aligné pas moins de 12 000 médecins à la prime des risques. C'est pratiquement, excusez-moi de le dire, souvent on nous reproche de faire des comparaisons. Je vous dis, à l'époque de l'ancien président Kabila, sur 18 ans, il y a moins de 4 000 médecins qui ont été mécanisés. Mais en 7 ans, le président Tshisekedi est allé à 12 000 et déjà ici, au deuxième trimestre, il y aura encore d'autres médecins qui seront mécanisés. En ce qui concerne l'avancement des grades, ça fait plus d'un 15 ans. En République démocratique du Congo, les médecins n'ont jamais connu l'avancement en grade, mais cela a été fait et grâce au concours du président de la République qui a signé une ordonnance. Les médecins sont avancés en grade. Et également dans les secteurs paramédicaux, que ce soit les infirmiers, il y a une nette amélioration de leurs conditions. La construction des hôpitaux, nous avons l'hôpital des Renaissances aujourd'hui, l'ancien Mamaemo, et même l'hôpital Jason Sendwe qui n'a jamais connu une réhabilitation. Et beaucoup d'autres hôpitaux sont en train d'être réhabilités. Et le grand programme de construction pendant la période de 100 jours du président de la République, il y a 35 centres de santé qui ont été construits. Et aujourd'hui, dans le cadre du PDL 145 territoires, on n'a plus des 150 centres de santé construits et d'autres déjà équipés. Et nous ne pouvons que saluer ces initiatives qui montre réellement que le président de la République est en train de travailler pour l'amélioration du social, sans oublier la réhabilitation de l'hôpital de Kanchachi, qui aujourd'hui, c'est un hôpital qui n'a rien envié à beaucoup d'autres hôpitaux, que ce soit en Europe.
Vous avez évoqué la question de la santé mentale des Congolais. Prenons le cas de la ville de Kinshasa aujourd'hui, les embouteillages, les inondations, les stress, la saleté, la pollution. En tant que médecin, quel est votre regard par rapport à cet aspect?
C'est quand même triste de voir le degré de pollution et de l'inconscience que nous avons au niveau, surtout de la ville de Kinshasa.
Et c'est un membre de l'UDPS qui a la tête de Kinshasa en plus.
Le problème n'est pas lié à la personne qui a la tête de la ville, parce que moi je viens de Mbujimayi, il y a 2 semaines, j'étais à Kananga. Il y a une semaine, je peux me permettre de me dire que ces 2 villes sont plus propres que Kinshasa. C'est lié à la mentalité. La Kinshasa subit peut-être une pression démographique énorme, mais également Kinshasa subit une multitude de cultures. Mais ce n'est pas une raison. C'est même que quand on voyage ailleurs, on ne jette pas la saleté partout. Autant le gouverneur a une responsabilité, autant nous les Kinois, nous avons une très grande responsabilité. Ce n'est pas le gouverneur qui envoie les Kinois d'aller jeter la saleté dans les caniveaux à chaque fois qu'il pleut. À chaque fois qu'il pleut, ce sont nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos cousins, nos oncles qui ouvrent
les
fosses septiques pour évacuer
les déchets.
C'est incompréhensible. Je pense que nous avons tous une responsabilité parce que à chaque fois que les enfants tombent malades, ce ne sont pas que les enfants du gouverneur qui tombent malades. Surtout que le gouverneur, il peut faire soigner ses enfants, mais les autres populations. Donc nous devons nous dire que à chaque fois que nous jetons la saleté, nous commandons une maladie pour notre propre famille et nous allons plus dépenser.
Nous nous tuons nous-mêmes.
Nous polluons la ville. Et je crois que nous avons une responsabilité, d'abord nous-mêmes, de pouvoir gérer nos déchets et la responsabilité également des autorités de la ville. Je pense que le gouverneur a des services sur lesquels il doit marteler, il doit taper pour qu'ils fassent également leur travail. C'est un appel à la conscience, à tout Congolais, à tout Kinois. Tout ça, la nuance au pot, tout pèse à Kinshasa, ils ont la boupe, tout n'est pas pour le gouverneur.
Kinshasa est bon gars, solo.
Est bon gars, solo, ils ont pour la bisso moko, pour la santé, la bisso, la santé, la banane, la bisso. Et puis, ils ont évité, parce que l'inondation, c'est vrai. Mikolo, au moins, ils allaient au Matamine, toujours là, ils ont les cas en Espagne. Il y a des inondations en Espagne. C'est pas parce que le gouverneur de Malaga est incompétent.
Mais les embouteillages vont nous rendre tous fous, là.
Moi, je me pose la question, nous sommes dans quelle ville? Nous sommes dans une ville où il n'y a pas d'effet de signalisation. Ou même le peu d'effets de signalisation que nous avons ne sont pas respectés. La ville de Kinshasa ne comporte pas plus de 5 ou 10 feux de signalisation. C'est anormal. Ça, j'interpelle également le gouverneur de la ville. Il doit veiller à ça. Autant que les chauffeurs doivent être des bons citoyens, mais également, la ville doit faire son travail. La prévention routière doit faire son travail. Il faut qu'il y ait des tracés. Je salue le travail qui est effectué à des tracés. Tant qu'on n'a pas de feu de signalisation avec le nombre de carrefours, c'est tout à fait normal qu'on ait des embouteillages. Partout où nous circulons, il n'y a pas de police de roulage dans la route. Il n'y en a pas. On ne voit pas de police de circulation dans la route. Si ce n'est que pour détraquer peut-être des chauffeurs inciviques ou des excès de vitesse. Mais nous devons également arriver, je pense, à tout numériser. La ville doit installer des feux de signalisation dans toute la ville. Ça va résoudre beaucoup de problèmes et je pense qu'on aura de moins en moins d'embouteillages. Et je salue quand même l'initiative du président de la République qui avait donné des instructions au gouvernement. On a vu comment est-ce que le ministre des Finances, la première ministre se sont mobilisés pour accompagner la ville avec une subvention d'environ 100 millions de dollars. Et nous voyons les travaux qui sont effectués. Il faut quand même les dire que la ville est en train de construire des routes en béton et c'est quelque chose à féliciter parce que c'est une construction pour la durée. Nous ne pouvons que saluer ces initiatives. Mais également interpeller là où le travail n'est pas bien fait en ce qui concerne le drainage.
Le grand témoin.
Okapi. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois Dr Yves Bunkulu-Zola. Il est médecin, ministre honoraire du tourisme, de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, et président de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le parti présidentiel. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez une grande expérience professionnelle dans le domaine des ONG, de lutte contre le VIH-SIDA, les violences sexistes et les minorités sexuelles. Parlons à présent de votre carrière politique. Vous rejoignez l'UDPS à 18 ans, en dirigeant sa section universitaire de 2007 à 2013. Et qu'est-ce qui vous attire en politique et particulièrement à l'UDPS?
Oui, il faut le dire pour tous ceux qui sont nés dans les années 80, même s'ils n'ont pas connu la naissance de l'UDPS, ils ont connu le nom d'un homme. Un homme exceptionnel, un homme formidable, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Je me rappelle, très jeune, j'ai commencé à militer, j'étais encore à l'école secondaire. À chaque fois qu'il y avait des marches de l'UDPS, les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts venaient nous faire sortir et puis nous entrons dans les marches. À l'époque, on ne savait pas, on était quand même utilisés comme des boucliers humains. Parce qu'à chaque fois que les étudiants manifestaient contre le président Mobutu, nous qui étions des élèves en uniforme, la police, l'armée ne pouvait pas tirer sur nous. À l'époque, on avait la garde civile. Pour nous, c'était une joie. On a arrêté l'école, on va aller. Mais c'est petit à petit qu'on prenait conscience. Et c'est beaucoup plus vers les années 95. Je me rappelle à l'époque, mon père avait une petite radio Power King. À chaque fois qu'il revenait du travail, il ouvrait sa radio. Il suivait en ligne les séances de la Conférence nationale. C'est à partir de cela que moi, j'ai eu goût. Parce qu'on écoutait à chaque fois Tshisekedi, on écoutait
Mosengo, Léo,
exactement,
les Kamitatu et tous les exactement. Autres politiciens.
Et puis à l'époque, c'était plus le nom de Tshisekedi et Mosengo qu'on écoutait. Et Kengo, on a vécu également les dernières heures du président Mobutu. Et c'est tout le monde qui attendait la nomination du président Tshisekedi. Et on était surpris. D'abord, c'était Kengo nommé. Ensuite, on a vu le feu président Tshisekedi rendre visite au feu président Mobutu à Nice, à l'époque où le président Mobutu sortait de sa maladie. Et on s'attendait à la nomination d'Étienne Tshisekedi comme premier ministre à l'époque. On a vu la nomination du professeur Likulia comme premier ministre. Et tous ces événements n'ont fait que renforcer notre engagement. Parce que dès cette période-là, moi, j'ai participé déjà à des manifestations. J'avais 13 ans à l'époque. Mais je suis déjà dans les marches.
Vous êtes délégué de la jeunesse au premier congrès de l'UDPS de 2010. Et comment vous formalisez votre intégration au sein de l'UDPS?
Oui, c'était pas facile. En 2010, on a formalisé d'abord notre adhésion à l'UDPS. C'était à partir de l'université de Kinshasa. Bien qu'avant, j'ai fréquenté déjà la section UDPS Lingwala. Mais en 2010, c'est là où j'ai formalisé mon adhésion à l'université de Kinshasa. Je me rappelle à l'époque. Mon président de l'UDPS Inikin, c'était l'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilombaye. C'est lui qui était mon président de la section UDPS. À l'époque, là, l'actuel FEPM Jacquemin Chabani venait de quitter l'université et c'est Tshilombaye qui prenait le rêne du parti. C'est eux qui nous ont encadré nos premiers pas actuellement et également un des conseillers du VPM, Jacquemin Chabani, Maître Toussaint Condé. C'était les aînés qui nous ont accueillis. Et nous avons trouvé à l'époque l'honorable Serge Mayamba, l'honorable Papi Nyango, c'est des aînés que nous avons trouvés à l'université. À l'époque, ils étaient exclus suite aux manifestations de 2000 où le ministre de l'Intérieur, le feu Miranduka, a été séquestré. Ils étaient exclus, mais on était avec eux. C'est eux qui nous encadraient à l'université et nous avons combattu ensemble avec le gouverneur Bumba, qui était un ami d'élite depuis l'Iniki.
Ah, il y a des gens qui pensent que c'est un parvenu.
Non, le gouverneur n'est pas un parvenu. Hein. Moi, j'ai connu le gouverneur Bumba à l'université de Kinshasa déjà dans les années 2003-2004. Nous étions ensemble dans les manifestations. Il y a encore un témoin, c'est Emmanuel Luboya, qui est également un grand ami d'élite. C'était l'ancien conseiller parlementaire à l'Assemblée nationale. Il a été également conseiller politique du président Jean-Marc Kaboun. Il a été mon conseiller politique quand j'étais ministre de la Jeunesse. C'est quelqu'un qui a beaucoup également contribué dans ma lutte. Il y a l'honorable Diabanza, avec également nous avons milité ensemble à l'université de Kinshasa. Nous ne sommes pas des gens qui se sont rencontrés actuellement. Donc ce qui raconte que le gouverneur Bumba, c'est un parachuté, c'est de la pire fausseté.
Vous êtes rapporteur adjoint au comité préparatoire du congrès de l'UDPS de 2018. Rapporteur adjoint de la commission de réconciliation de l'UDPS, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Parlons de la Ligue des jeunes de l'UDPS, très dynamique, très mouvementée parfois. On parle de certains jeunes, par exemple la Force du Progrès, que beaucoup d'opposants qualifient pratiquement de milice.
Non, c'est une fausseté. Mais l'honorable Diabanda, c'est un ancien de la Force du Progrès. Vous allez me dire que l'honorable Diabanda, c'est un milicien. Je pense pas. Je donne un autre exemple parmi les cadres rapprochés du président. Nous avons également des collègues avec qui on était à l'université, Fabrice Bakalouf, qui est aujourd'hui dans la sécurité présidentielle. Il est un ancien de la Force du Progrès. C'est pas un bandit.
Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'on attribue, des casses, des troubles à la Force du Progrès?
Nous avons également Boni Kalonji, qui est également à la sécurité du président de la République. C'est pas un bandit, c'est pas un milicien, c'est un universitaire. Nous avons actuellement un des protocoles du président de la République, Alain Moubenga, qui est également un ancien de la Force du Progrès.
Oui, mais tous ces jeunes que vous manipulez à travers, travers les quartiers qui menacent les gens, qui terrorisent les quartiers, de la Force du Progrès.
Non, je pense que dans toute société, que ce soit dans nos familles, nous avons parfois le gène qui s'égare, nous avons le nombre de familles qui s'égare. C'est pas forcément une ligne politique ou une ligne de conduite de nos familles. Donc, le membre de la Force du Progrès, autant il y a des ceux qui sont calmes, autant il y a des ceux qui sont turbulents. Mais tous ceux qui se cassent là, qui les identifient, qui sont réellement de la Force du Progrès. On peut bien se déclarer de la Force du Progrès, peut-être pour usurper une identité et obtenir une certaine immunité. La Force du Progrès, c'est une structure de jeunes du parti, qui est une structure informelle. Il y en a tant d'autres. Il y a beaucoup de structures informelles au sein de la Ligue des jeunes de l'UEPS, notamment la Force du Progrès. Moi, j'ai eu à travailler avec des jeunes de la Force du Progrès dans mon cabinet. Mokato, Héritier Bongwalanga, qui est également actuellement au ministère des Finances, c'est le ministre de Doufamba. Je pense pas que la jeunesse de l'UEPS se résume à cela. Moi-même, j'étais président sectionnaire de la Ligue des jeunes UEPS, d'abord Unikin, avant d'être président de la Ligue des jeunes nationale. Mon successeur, c'est l'actuel chargé de mission de la DGRK, Passi Kaja, qui était mon successeur. L'actuel DGA du Fonds spécial de promotion de l'emploi des jeunes, M. Victor Nyangi, qui est également un compagnon de
l'UDP. Et donc, en les citant, on voit bien que les jeunes de l'UDP sont très bien servis à travers les institutions.
Je ne dirais pas bien servis, mais nous avons une chance. Nous avons un président de la République qui fait de la promotion de la jeunesse et de la promotion de la femme son leitmotiv. Mais nous avons vu le président nommer pas que les jeunes de l'UDP. Il y a des jeunes de beaucoup de partis politiques. Nous avons l'actuel ministre de les affaires foncières, elle n'est pas de l'UDPS. Elle est au gouvernement très jeune, à l'âge de 26 ans.
Parmi les rares qui ne sont pas de l'UDPS.
Non, nous avons l'ancienne ministre de l'EPST, l'honorable Aminata, qui n'est pas membre de l'UDPS. Elle était ministre à l'âge de 26 ans, et puis vice-ministre de l'EPST. Et Madame Onège, vice-ministre des Finances à l'époque. Ce n'est pas de petites responsabilités. Nous avons vu de jeunes comme Junior Mata, l'actuel DG de la CNSA, qui a été vice-ministre des Finances. Nous avons de jeunes comme l'actuel ministre des Finances, Doudou Fouamba.
Vous êtes ministre du Tourisme en 2019 sous le premier ministre Ilunga Ilunkamba, ministre de la Jeunesse, de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et de la Cohésion Nationale en 2021 sous Samalou Kondé et en 2023. Comment vous expliquez votre arrivée au gouvernement?
C'est pas question de récompense. Nous avons milité à l'UDPS. Le chef, c'est parmi les gens qui nous ont encadrés. J'étais président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Il y avait vraiment un grand soutien. Je remercie tous les amis. J'avais reçu un grand soutien de tous les jeunes du parti qui souhaitaient me voir le représenter au gouvernement. Et j'avais également les soutiens de l'ancien président du parti ad intérim, le président Jean-Marc Kabound. J'avais les soutiens du secrétaire général Augustin Kabuya et de toute son équipe. Et en tout cas, il y avait vraiment une certaine unanimité sur ma personne. Il faut quand même le dire, à l'époque, ça ne faisait qu'une année que j'ai géré la Ligue des jeunes. Mais néanmoins, nous avons eu à bien collaborer avec des amis et c'est ce qui a poussé à ce que ce soit les structures informelles, notamment la Force du Progrès, G27, Congo Conscience, Nouvelle Génération, Bansomi. C'est vraiment les grandes structures de jeunes de l'UDPS qui ont vraiment soutenu ma candidature. Et bien sûr, c'était la volonté du président de la République, parce qu'il faut vous rappeler, le premier gouvernement, il y avait trois présidents de la Ligue des jeunes au sein du gouvernement. Le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, qui était moi. Le président de la République a fait également de l'ancien président de la Ligue des jeunes de l'INC, Billy Kambalé, ministre de la Jeunesse à l'époque. Moi, j'étais au tourisme. Et le président de la Ligue des jeunes du PPRD, qui était vice-ministre des ressources hydrauliques. Et il y avait également un influent membre de la jeunesse du PPRD, Moussa Mondo, qui était vice-ministre des hydrocarbures. Et vous voyez réellement la volonté du président à pouvoir créer une classe politique des jeunes de tous les bords, pas que les jeunes de bien qu'à l'UDPS, nous étions quand même trois. Il y avait moi, il y avait le ministre Junior Mata, il y avait l'actuel ministre des hydrocarbures, Madame Excellence Acacia Bandoubola, qui est également jeune à cette époque-là.
Alors,
au gouvernement.
Vous êtes au ministère du Tourisme. Le tourisme, c'est un secteur clé pour la RDC, qui est un paradis terrestre. Mais le secteur du tourisme, on ne le sent pas vraiment. C'est quoi le problème finalement?
Il y a beaucoup d'handicaps qui font en sorte que le secteur du tourisme dans notre pays ne soit pas assez reluisant. Les contraintes sont de divers ordres. Il y a des contraintes administratives, il y a des contraintes sécuritaires, il y a également des contraintes financières. Sur le plan administratif, je pense que je l'ai repris dans mon livre intitulé « RDC, la destination touristique. Sur le plan administratif, d'abord, nous sommes un pays qui n'a pas de politique nationale du tourisme. C'est un problème. Raison pour laquelle, dès mon arrivée à la tête de ce ministère, nous avons travaillé avec l'Organisation mondiale du tourisme. Nous avons réussi à mettre en place un draft sur la politique nationale du tourisme, mais également un plan de développement du tourisme pour la République démocratique du Congo, que l'ancien ministre Didier Pambia actualisé, mais ces documents doivent être adoptés en Conseil des ministres et être mis en œuvre. D'autres contraintes administratives, c'est la lourdeur de notre administration. Pour avoir un document de foi, je donne un exemple, un hôtel qui se trouve à Bouindé, pour obtenir un certificat, soit une licence d'exploitation, il faut que le dossier arrive à Kinshasa, mais par quel moyen? Et je pense que c'est quand même parmi les contraintes dans le secteur administratif. Une autre contrainte, c'est la contrainte liée à la multiplicité des taxes. Vous savez, en République démocratique du Congo, le secteur du tourisme, il y a 36 taxes dans le secteur du tourisme.
36.
36. Et nous nous sommes battus, nous avons fait un grand travail avec la FEC pour essayer d'élaguer 16 ou 17 taxes. C'est un travail que moi j'avais trouvé de mon prédécesseur, le ministre Apanela. Avec la lourdeur administrative, avec la multiplicité des taxes, la RDC n'attire pas. Que ce soit les investissements, il faut le dire, quand vous allez dans les hôtels, tous les hôteliers se plaignent. Quand vous allez dans les secteurs des restaurants, tous les restaurateurs se plaignent avec cette multiplicité des taxes. Vous avez plein de taxes, bon, je ne vais pas citer ici, peut-être ça va fâcher d'autres personnes. Vous avez des taxes, par exemple, des PTNT dans les secteurs du tourisme.
Le tourisme.
Non, mais c'est énormément de taxes.
Mais il y a quand même des choses très simples dans les secteurs du tourisme qui peuvent être faites. C'est par exemple le tourisme scolaire.
Effectivement,
le tourisme familial.
Je suis en train d'avancer pour évoquer tout cela. Nous avons non seulement dans le secteur administratif, nous avons également un problème lié à l'accessibilité. Moi, je salue le président de la République qui est un grand visionnaire qui a accordé à tout le Congolais de pouvoir obtenir leur visa aéroportuaire. Tout le Congolais d'origine qui ont changé de nationalité. Vous savez, je donne un exemple, quelqu'un qui habite Marseille, un Français qui habite Marseille, il veut visiter la RDC. Il doit arriver à Paris pour avoir son visa. Marseille, Paris, c'est
pas la porte à côté.
C'est 5 heures, disons, même pour quitter Lyon, Paris, c'est soit 3 heures de route, et puis il faut payer l'hôtel déjà à Paris, il faut faire la demande de visa. On vous répond pas le même jour. Donc, c'est tout un problème, déjà, l'accessibilité des frontières de la RDC. Et aussi, il faut le dire, au niveau de l'aéroport de Djili, les tracasseries qu'il y a aussi, ce sont des procédures.
Des obstacles,
secteur administratif, certains sécuritaires. Vous savez, la guerre à l'Est impacte beaucoup sur l'image de la République démocratique du Congo. Je salue le président de la République pour avoir signé un accord de paix, l'accord de Washington, parce que dans l'accord de Washington, il y a également un aspect sur le tourisme qui est pris en compte, ce qu'on appelle la collaboration transfrontalière du Grand Virunga, qui permet à ce que la RDC, l'Ouganda, ainsi que le Rwanda, nous puissions gérer nos forêts communes, partager des informations et même proposer des circuits communs, parce qu'aujourd'hui, le tourisme, c'est des circuits. Et vous l'avez si bien dit, le tourisme scolaire, tout ça, je pense que le ministre Moutiri à l'époque avait déjà lancé. Nous avons également fait ce travail et sur le secteur du tourisme scolaire. Il y a un document qui a été élaboré et on ne doit pas oublier, il y a une grande personne également qui a beaucoup milité pour le tourisme scolaire, le fait André Kadima, qui est le propriétaire de l'hôtel Béatrice. Paix à son âme, qui a également beaucoup travaillé pour que le tourisme scolaire
soit fait. Mais aussi, il y a des sites touristiques ici à Kinshasa qui sont complètement négligés. Prenons la place Force publique à Kasavubu. Quand vous y allez, vous n'avez même pas l'impression que c'est un lieu touristique.
Mais aussi des contraintes culturelles. Le tourisme doit être dans notre culture. Il faut quand même le soulever. Le tourisme n'est pas trop souvent inséré dans notre culture. On présente l'image du tourisme comme trop dépensier et que le tourisme coûte cher. Mais vous avez donné un très bel exemple. Pour aller visiter le rond-point de la force publique, on dépense combien? C'est le tourisme. Pour aller visiter la tombe de Selembao, on dépense combien? C'est le tourisme. Voilà pourquoi dans mon livre « RDC, la destination touristique », je suis revenu sur les différents sites, sur les différents types de tourisme qui existent. Je voulais présenter une autre image de la République démocratique du Congo. Que la République démocratique du Congo ne soit pas vue que sur le prisme des guerres, le prisme des souffrances, mais présenter également la République démocratique du Congo comme une destination à visiter. Nous sommes la 10e méga biodiversité dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à voir, le tourisme culinaire. Nous ne nous rendons pas compte. Il y a des gens qui quittent la France, qui quittent l'Angleterre, qui quittent la Belgique pour venir prendre le poulet mayo à Capella, pour venir prendre les poissons braisés à Bandalungwa. Ça aussi, c'est un problème. Vous savez que l'accès dans les mines est interdit pour les étrangers. Nous devons déverrouiller cette barrière. Le tourisme minier existe ailleurs dans le monde. Quelqu'un peut entendre parler de la Chikamine. Des gens entendent parler de Chinkolobwe, là où l'uranium a été extrait pour la bombe atomique. C'est des sites qui existent en République démocratique du Congo, dans le Haut-Katanga, mais que nous-mêmes nous visitons pas, que les étrangers également ne peuvent pas visiter. Nous avons aujourd'hui la plus grande mine de cobalt, la mine de Mutanda. Nous avons également une plus grande mine de cobalt, toujours dans le Lualaba. Nous avons la mine de Kamoto, toutes ces mines-là.
Tout à fait.
Nous avons le barrage d'Inga, donc il y a beaucoup de types de tourisme qui peuvent être développés dans notre pays. Les écoles le font déjà. On était à l'école primaire, on visitait les jardins zoologiques de Kinshasa, mais il n'y a pas que ça. Le tourisme peut permettre également aux Congolais de découvrir d'abord leur propre pays, mais également de renforcer le patriotisme, mais également de bien faire la promotion de la République démocratique du Congo. Ce que nous voyons en République démocratique du Congo, apparemment les Congolais, on est experts en Congo bashing. Nous faisons que insulter notre pays, c'est comme si nous n'avons rien à proposer. Mais moi, je suis des fois étonné. J'ai rencontré une dame qui est avocate en France, avec qui j'ai discuté, qui m'a dit qu'elle a fait 6 mois à République démocratique du Congo. Et à Kinshasa particulièrement, c'était merveilleux. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez de merveilleux? Elle me parle de Lola Bonobo. Mais posez la question qui n'a.
Combien de Kino ont visité Lola? Connaissent Lola Bonobo.
Disait bien, Disait bien maman si Nadia Kouketi Bouezi di Kala. Oyo yo disait bien.
Disait bien. Disait bien maman si Nadia Kouketi Bouezi di Kala.
Oyo yo disait bien.
Disait bien. Disait bien maman si Nadia Kouketi Bouezi di Kala.
Moi aujourd'hui, je reçois Dr Yves Bunkulu-Zola. Il est médecin, ministre honoraire du tourisme, de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale et président de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le parti présidentiel. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages. Parlons maintenant de l'aspect jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté, la cohésion nationale. Les problèmes des jeunes Congolais sont connus. Qu'est-ce qu'on peut mettre à votre actif après votre passage à ce ministère pendant plusieurs années quand même?
Oui, après mon passage au ministère de la Jeunesse, nous avons quand même réussi à réformer beaucoup de choses, notamment les brigades agricoles des jeunes. Nous avons mis en place un projet, le projet sur les brigades agricoles des jeunes, qui encadre, qui forme les jeunes dans l'entrepreneuriat agricole. C'est un programme qui continue aujourd'hui, et c'est grâce à nous que ce programme existe, parce que nous avons trouvé, bien entendu, les brigades agricoles, mais ces brigades n'étaient pas équipées, on n'a même pas trouvé... J'ai trouvé un seul tracteur, mais je suis reparti, j'ai laissé 4 tracteurs, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Nous avons également réussi à mettre en place le plan d'action national sur la résolution 2250 pour la participation des jeunes dans la paix et la sécurité. La République démocratique du Congo, il faut le dire, la République démocratique du Congo est le deuxième pays en Afrique après le Nigeria à avoir ce plan d'action national. Et c'est le troisième pays dans le monde après la Suède et le Nigeria avoir ces programmes. Nous l'avons également élaboré grâce à l'appui d'une dame exceptionnelle, Madame Annie Matundu, qui a également mis en œuvre la résolution c'est lié au genre pour les femmes.
Avoir un plan, c'est une chose, l'appliquer, ça en est une autre.
Exactement. Je pense que nous, on a fait un travail. On n'était pas éternel au ministère de la Jeunesse. Donc, je crois que les gens qui sont venus après moi également se battent pour mettre en œuvre. Nous avons également beaucoup travaillé sur la question liée à l'emploi ainsi qu'à l'entrepreneuriat des jeunes. Il faut vous souvenir, quand on est arrivé au pouvoir, on a trouvé un établissement public appelé Fonds spécial pour la promotion en plan entrepreneuriat des jeunes qui ne fonctionnait jamais. Il y avait un décret, donc on a trouvé qu'un décret de 10 pages. Et c'est grâce à notre action, nous avons fait pression au gouvernement, nous avons vu le président de la République que j'ai salué plusieurs fois et qui avait réellement porté à bras le corps ainsi que avec le soutien du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, parce qu'il faut que je le dise aujourd'hui, c'est pas un secret d'État. Je n'avais pas reçu le soutien des membres du gouvernement, la majorité des membres du gouvernement sur cette question, mais le Premier ministre s'était imposé pour que réellement cet établissement public puisse être mis en œuvre, parce que le président de la République l'avait promis aux jeunes. Il avait promis aux jeunes lors de son premier discours à la Nation, en 2019, de mettre en place un établissement pour financer les jeunes. Aujourd'hui, le fonds spécial est en train de fonctionner. Il y a des jeunes qui sont formés. En tout cas, c'est une fierté pour nous. Mais également, nous avons réussi à ramener des financements de la francophonie. On parle de la francophonie. On voit que la francophonie, l'aspect linguistique, non. La francophonie contribue également dans l'aspect entrepreneurial. Il y a un programme PPJ qui finance, qui forme les jeunes de l'entrepreneuriat. C'est lors de notre passage au ministère de la Jeunesse qu'on a réussi à obtenir que ce soit des formations, mais également le financement de ces programmes. Mais en ce qui concerne également le mouvement associatif des jeunes, il faut le dire quand même, nous sommes parmi les premiers à notre arrivée. Nous sommes battus pour que ce soit le Conseil national de la jeunesse, que ce soit le Forum des jeunes, que ce soit le Parlement des jeunes puissent obtenir des financements du gouvernement pour leur fonctionnement.
Mais qu'est-ce que vous répondez à certains de vos détracteurs qui disent que l'entrepreneuriat des jeunes, c'est juste des manifestations qui se limitent dans des bureaux UP climatisés, des hôtels climatisés à la Gombe, à Béatrice, Pullman, ainsi de suite, hôtel du fleuve. Mais sur terrain, ces jeunes entrepreneurs-là, on ne les voit pas, selon certains.
Non, détrompez-vous. Je pense que j'étais membre du comité de pilotage du programme PADEM-PME, où pas moins de 1000 jeunes ont été financés à travers la République, et particulièrement c'était à Kinshasa ainsi qu'à Goma, où beaucoup de jeunes ont été financés, que ce soit à Matadi, c'est des jeunes qui ont reçu des financements d'autres, des $150,000 non remboursables. Il faut saluer la vision du président de la République qui fait vraiment du secteur de l'entrepreneuriat une solution pour reconstruire le tissu économique en République démocratique du Congo. Les jeunes entrepreneurs sont sur terrain. Ils font leur travail. Peut-être ne font pas de publicité, mais ils sont en train de faire leur travail. J'en connais nombreux qui ont réussi le financement du président. J'en connais nombreux qui sont devenus des millionnaires que le président avait promis. Je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais ils se connaissent, qui sont dans le secteur de la sous-traitance, qui sont devenus millionnaires aujourd'hui grâce à la politique que le président de la République a mis en place dans le secteur de la sous-traitance. Et la plupart de ce sont des jeunes entrepreneurs. Il y a des programmes, pas d'MPME, qui a financé beaucoup de jeunes. Il y a également le programme Transforme. Au moment où on parle, il y a des jeunes qui reçoivent des financements. Et au-delà de ça, il y a également au niveau du du ministère de l'Agriculture, le programme PEJAB. Nous avons travaillé dans ce programme, le programme d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agro-business, où les jeunes ont été formés, les jeunes reçoivent des financements, mais également à travers le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, qui a financé aujourd'hui, il y a trois cohortes de jeunes qui reçoivent des financements. Ce ne sont pas des entrepreneurs fabriqués, ce sont vraiment des entrepreneurs jeunes congolais.
En octobre 2025, vous reprenez la direction de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Parlons de votre casquette d'auteur. Vous êtes auteur de trois ouvrages déjà. Le premier, vous y avez fait allusion tout à l'heure, RDC, Destination Surprise. C'est un ouvrage qui met en lumière votre expertise dans le domaine du tourisme. Il y a également Étienne Tshisekedi, Le combat de toute une vie, qui retrace le parcours d'Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi, De la base au sommet, qui retrace le parcours de l'actuel chef de l'État. Parlons d'Étienne Tshisekedi. Le 1er février dernier, 2026, ça faisait exactement 9 ans, il est mort, mais de tout ce parcours, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui comme héritage d'Étienne Tshisekedi, 9 ans après sa disparition?
Le plus grand héritage d'Étienne Tshisekedi, c'est l'amour au Congo, l'amour du Congolais. C'était son credo. Le plus grand héritage d'Étienne Tshisekedi aujourd'hui, c'est le peuple d'abord.
Qui n'est resté aujourd'hui qu'un slogan selon vos détracteurs.
Le peuple d'abord n'est pas un slogan, je l'ai dit ici. Quand en 7 ans, le président de la République aligne environ 12 000 médecins à la prime de risque. Ces médecins-là ne font pas partie du peuple. Quand le président de la République aligne 255 000 enseignants qui étaient non payés à la paye, ça fait pas partie du peuple d'abord. Quand le président de la République lance un programme de construction des centres de santé à travers la République démocratique du Congo, et je le précise bien, il y a pas moins de 150 centres de santé qui sont aujourd'hui dans le cadre d'un programme d'urgence du ministère de la Santé. Il y a 62 centres de santé qui sont construits et qui seront bientôt inaugurés. Je pense que le ministère de la Santé va communiquer. Ils sont déjà construits et équipés dans 4 provinces.
Donc l'amour du Congo, l'amour du Congolais.
L'amour du Congolais, le peuple d'abord. Il y a aujourd'hui l'amélioration de la paye des militaires. C'est ça le peuple d'abord. Vous savez, quand le président Tshisekedi arrive au pouvoir, quand on était blessé des guerres, c'est après 3 mois qu'on était retiré sur la liste des payes. Et il y avait des militaires mendiants. Je pense que de plus en plus, vous allez constater, il n'y a plus assez de militaires mendiants dans les routes. Pourquoi? Parce que le président de la République avait pris une mesure. C'est aujourd'hui environ 33 000 militaires blessés des guerres qui sont réactivés dans la liste des payes. C'est ça le peuple d'abord. Donc nos détracteurs, ils doivent trouver ailleurs. Parce que le président de la République a un bilan à présenter. Pas seulement en termes de chiffres, mais en termes de faits. Ce sont des pères de famille qui aujourd'hui peuvent vivre. S'il y a plus de 5 millions d'enfants qui sont repris dans le chemin de l'école suite au programme de gratuité de l'enseignement, c'est ça le peuple d'abord. Si aujourd'hui une femme se permet d'aller accoucher sans débourser quoi que ce soit pour payer le frais d'accouchement, c'est ça le peuple d'abord. Et ce qu'on retient également d'Étienne Tshisekedi, c'est la constance dans la politique, c'est un grand héritage, mais également la lutte contre la peur. Ce sont les plus grands héritages d'Étienne Tshisekedi. Je pense que Étienne Tshisekedi aujourd'hui, c'est une personne qui incarne la morale dans la politique.
Alors Félix Tshisekedi, de la base au sommet, en pratiquement 7 ans de pouvoir, je sais que vous direz que le bilan de Félix Tshisekedi est très positif, mais très brièvement, hein, parce qu'on n'a pas tout le temps, il y a des détracteurs qui pensent que c'est un bilan en dents de scie et qu'à la fin, Félix Tshisekedi n'aura qu'à s'en mordre les doigts. Qu'est-ce que vous leur dites?
Ça me fait rire. Bilan de Félix Tshisekedi en dents de scie, je me pose la question, de quoi il parle? Je vous ai donné des chiffres ici. Le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve un budget à 3 milliards de dollars. En moins de 10 ans, on est à 26 milliards. Donc l'année prochaine, on sera à 30 milliards, c'est-à-dire en moins de 10 ans, Félix Tshisekedi va multiplier le budget de la République démocratique du Congo fois 10. Et ça, le bilan de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve un pays qui n'a pas de route. Aujourd'hui, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, c'est pas moins de 3000 km de route construite. Pas en terre, en bitume. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train d'accomplir la promesse du président Kabila, de relier Kinshasa à Sakania. Nous avons aujourd'hui la route de Kalamba-Mbuji, la route nationale numéro 1. Dans peu de temps, il nous reste environ, sur les 3300 km, on a moins de 800 km à relier, pour relier le Congo de bout en bout. Félix Tshisekedi trouve un projet de 1923, la construction du port en eau profonde, dans les tiroirs de la République. Et il exhume, et aujourd'hui, c'est un fait. En décembre 2026, il y aura des conteneurs au port en eau profonde qui aura un impact économique important. Vous le savez bien comment est-ce que les Congolais souffrent dans la douane. Mais le port en eau profonde, c'est pas qu'un problème politique. C'est un problème social. C'est un problème, et je peux me permettre de le dire, de souveraineté. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, on aura accès à l'océan grâce à la politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo trouve quasiment les pays avec des avions moribonds, avec des cercueils volants. Mais Félix Antoine Tshisekedi, grâce à sa politique, a mis en place une deuxième société nationale, bien sûr, en collaboration avec Ethiopian Air Congo. Et il est en train de ressusciter Congo Airways grâce à l'appui de la CNCS qui est un des actionnaires. Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui, il multiplie la construction des infrastructures. Il faut quand même le dire.
Mais qu'est-ce
aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi construit des universités.
Qu'est-ce que vous répondez?
À Mujima, il y avait pas une université.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les promesses sont plus nombreuses que les réalisations?
Alain, laissez-moi de parler des universités. J'ai quand même fait mes études à Sorbonne Paris Nord. Je vous dis, l'université de Mujimaï, l'université de Kananga, en termes de bâtiments, en termes d'infrastructures, n'a rien envié à l'université Paris-Sorbonne. Aujourd'hui, l'université de Kinshasa a été réhabilitée. Moi, j'ai fait mes études à l'université de Kinshasa. J'ai habité les hommes universités de l'université de Kinshasa. Mais on habitait dans quel état? On habitait dans quelles conditions? Lorsqu'un condisciple de la chambre de dessus s'est lavé, vous avez l'eau dans votre chambre. Moi, j'ai vécu cela. Il y a aujourd'hui beaucoup de Congolais qui peuvent témoigner. Mais allez visiter aujourd'hui l'université de Kinshasa. Allez à l'ISC.
Qu'est-ce qu'il faudrait au régime Tshisekedi pour que le bilan soit plus que parfait selon vous à la fin du mandat? Le
bilan du président Félix Antoine Tshisekedi est plus que positif. Parce que là où il a trouvé la RDC, là où il a amené la RDC, c'est des pas d'une manière exponentielle. Je donne l'exemple de l'accès à l'électricité. Mais le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve l'accès à l'électricité à environ 7%. Mais aujourd'hui, on est à plus de 23%. C'est quasiment multiplié par 3. Le président Tshisekedi, il trouve la République démocratique du Congo, l'accès à l'eau, à moins de 12%. Mais aujourd'hui, on est à environ 35%. Et surtout qu'il y a des projets de construction encore des châteaux d'eau que j'ai laissés à Kananga. Il y a maintenant des groupes électrogènes pour alimenter. Il y a bientôt le barrage de Katende qui va finir. Aujourd'hui, il y a des constructions de routes. Il y a la route qui va vers Idiofa. En asphalte. Et je pense que nous devons vraiment féliciter le président Tshisekedi qui a un bilan largement. Il y a 8 aéroports construits à travers la République. J'ai évoqué cela dans mon livre, RDC à destination touristique. Aujourd'hui, il y a les travaux que la première ministre a lancés avant-hier à Bumba pour la réhabilitation du port de Bumba. Le bilan n'est pas seulement plus positif, mais le bilan est en train de se parfaire encore parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, continue à travailler. Et vous avez posé une question, je pense que nous devons continuer. Nous avons accompagné le président de la République dans le combat de la lutte contre la corruption. Le problème de la corruption, c'est un problème qui gangrène notre société. Et je pense que si nous menons très bien ce combat, ce n'est pas l'affaire du président de la République seul, c'est l'affaire de tous les Congolais. Parce que la corruption est inculquée dans nos mentalités pendant plus de 32 ans, pendant plus de 40 ans. Nous avons connu 32 ans de dictature qui a changé la mentalité des Congolais. Parce que le mal zaïrois, quand le professeur Mabika Kalanda l'a évoqué, Félix Antoine Tshisekedi n'était pas au pouvoir. C'est un problème qui existe. Et là, le président de la République a mis en place, a ressuscité l'IGF, où il y a un grand travail qui a été effectué et qui est en train d'être effectué. Aujourd'hui, nous avons des mandataires qui répondent devant la justice, des ministres qui sont interpellés. Et je pense que c'est déjà un pas, mais il faut aller encore plus loin. Et la bonne gouvernance également. Nous devons travailler à des personnes à qui le président de la République confie la gestion de la République. Ils doivent prendre conscience que ce n'est pas une question de faire honneur au président, mais c'est une question de bâtir la République.
On est en train de terminer, Dr. Yves Bunkulu-Zola. À quand le vernissage de ces deux ouvrages?
C'est pour bientôt. Je pense que nous avions voulu observer d'abord la célébration du 1er février. Nous avons laissé la primauté à la famille. Je salue la vénérable Marthe Kassalou qui a accompagné le feu président Tshisekedi durant toute sa lutte. Je salue toute sa famille, parce qu'il faut le dire, la famille Tshisekedi, c'est une famille qui a enduré 3 dictatures, la dictature mobutienne, la dictature du fait Kabila 1 et 2. C'est une famille qui a subi la relégation, c'est une famille qui a subi pratiquement l'apartheid, ça il faut le dire.
Et donc c'est pour bientôt.
C'est pour bientôt et nous allons vous communiquer dans les jours à venir la date de vernissage de ces deux ouvrages. Les ouvrages sont déjà disponibles à Kinshasa. Les ouvrages peuvent être trouvés aux éditions Grand Lac, sur Amazon, sur Cultura, en ligne également. C'est Babelio également en ligne, mais également directement aux éditions L'Harmattan pour RDC à destination touristique, mais également aux éditions Michel Lafon pour Étienne Tshisekedi, le combat de toute une vie. Mais les livres sont également disponibles, je l'ai dit, ici à l'hôtel Memling, au Mediaspol, à la librairie Pauline. Et bientôt, nous allons trouver d'autres points de vente à l'intérieur du pays, à Lubumbashi, prochainement à Matadi, à Kolwezi, ainsi que dans d'autres pays à l'étranger.
Alors, pour terminer, un mot à tous les jeunes Congolais qui vous suivent en ce moment.
C'est la persévérance. Nous ne devons pas faire abstraction à l'agression qui subit la République démocratique du Congo par le Rwanda. Donc, je félicite vraiment les jeunes Congolais qui ont eu à rejoindre l'armée pour défendre la République et toute notre armée pour le travail qu'ils font, mais également les services de sécurité et tous les gouvernements. Je pense que nous devons redoubler d'efforts et le jeune de continuer à travailler pour l'intérêt de la République, à soutenir le président de la République, à défendre la patrie, parce que nous n'avons que le Congo comme pays, nous n'avons pas d'autres pays.
Docteur Yves Bunkulu-Zola, merci de nous avoir reçus chez vous dans le cadre de Grands Témoins.
C'est moi qui vous dis merci.
Mesdames et messieurs, Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation Alain Hiron Mouchinge. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que plusieurs autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radioocapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.